c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, réaction suite au nouveau gouvernement au Niger. Hausse terrifiante du nombre d'enfants utilisés comme kamikazes par Boko Haram. Mécontentement de la société civile burkinabé. Grincement de dents au sein de l'administration publique au Bénin. Et enfin, la terrible sécheresse en Afrique australe provoque une nouvelle insécurité alimentaire en Éthiopie. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Au Niger, une dizaine de jours après sa reconduction comme Premier ministre par le président réélu, Brigui Raffini a formé son équipe gouvernementale. La liste des 38 ministres comporte 7 femmes. Mais que pensent les citoyens nigériens de ce nouveau gouvernement ? Écoutons les réactions recueillies par notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Je ne pense pas que ce soit ce à quoi les Nigériens se sont attendus. Parce que, au regard de tous les défis qui pointent à l'horizon, surtout financiers, je pense que 38 ministres pour un gouvernement d'un pays comme le nôtre, je trouve que c'est un peu lourd. Quelque part, c'est une récompense et politiquement, ça se justifie. Ce qu'on souhaite, c'est que ce choix soit le meilleur pour le Niger.
Le premier constat qu'on fait, c'est un gouvernement pléthorique. Dans le Niger où tout est priorité, l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture, tout est priorité, un gouvernement de 38 ministres est trop pour le pays. Il n'y a que ces partis politiques qui ont accédé au partage, qui ont eu chacun sa part, qui vont vous dire que non, c'est normal, c'est juste, il faut faire 38 ministres.
Un gouvernement de 38 membres n'est ni plus ni moins ce que les gens disaient, un partage de gâteau. Rien ne justifie un gouvernement de 38 membres, si ce n'est les alliances qui conduisent au partage des portefeuilles ministériels. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est très nuisible, à mon sens, pour l'économie du Niger. Une économie d'ailleurs qui n'arrive même pas à subvenir aux besoins essentiels de la population du Niger, qui sont l'éducation, la santé, la nourriture.
C'est une bonne équipe, que Dieu leur donne bonne chance et que notre pays aille de devant.
Des réactions recueillies par notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa. A de plus en plus recours aux enfants pour perpétrer des attaques suicides, notamment au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. Les chiffres sont terrifiants. De 4 enfants utilisés en 2014, ce sont 44 enfants qui ont été sacrifiés en 2015, dont 75% sont des filles. C'est l'UNICEF qui l'affirme dans un rapport intitulé « Beyond Chibok », que l'on peut traduire par « Au-delà de Chibok », un document publié près de 2 ans après l'enlèvement par le groupe islamiste nigérian de 276 lycéennes dans le nord-est du Nigeria. Pour en savoir davantage, Jacques Aristide s'est entretenu avec Laurent Duvillier, chargé de communication régionale pour l'UNICEF.
Alors, c'est un rapport qui est très inquiétant parce que ça fait 2 ans que les jeunes filles de Chibok ont été enlevées. Le monde a été ému. Mais 2 ans après, non seulement la plupart d'entre elles n'ont pas été libérées, mais en plus, près de 2000 autres jeunes filles et adultes ont été enlevées à travers 4 pays de la région. Souvent, ces enfants sont transformés en esclaves sexuels, en combattants et même aujourd'hui, en kamikazes. Je n'aime pas les appeler kamikazes, mais ce sont vraiment des attaquants suicides. Et le monde, malheureusement, n'a pas donné l'attention qu'il fallait à tous ces enfants. Juste pour donner une perspective, il y a un an, juste un an, l'UNICEF parlait de 800 000 enfants déplacés par le conflit. Aujourd'hui, on en est à 1,3 million d'enfants qui ont fui les violences de Boko Haram, non seulement au Nigeria, mais aussi dans les 3 pays environnants, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Nous avons besoin de 97 millions de dollars américains cette année-ci pour couvrir les besoins humanitaires de ces enfants. Nous n'en avons reçu à l'heure actuelle moins de 12%.
Qu'avez-vous noté de nouveau ?
Un des phénomènes que nous voyons et qui nous préoccupe également, c'est l'augmentation du nombre d'attaques à la bombe et spécialement les attaques à la bombe qui impliquent les enfants. C'est en augmentation au Nigeria, c'était déjà le cas il y a un an, mais plus préoccupant encore au Cameroun. Ce n'était pas le cas il y a un an. Et spécialement des enfants qui sont parfois très jeunes, qui ont parfois seulement 8 ou 10 ans et qui sont utilisés. Certains d'entre eux n'ont même pas connaissance de la gravité des actes qu'ils posent, mais ils sont instrumentalisés par les groupes armés, par Boko Haram, pour mener des actes terroristes contre leur communauté elle-même, contre leur famille elle-même. Et c'est ce qui est le plus horrible.
Quelles sont les séquelles pour ces enfants, en particulier ceux et celles qui ont été relâchés après avoir vécu en captivité ?
Alors, les séquelles sont énormes. Il y a aujourd'hui une discrimination face à ces nombreuses jeunes filles aujourd'hui qui ont vécu le calvaire. On pourrait penser qu'après leur libération, c'est la fin du cauchemar. Eh bien, souvent, c'est juste le début. Elles ont été trois fois victimes. Le jour de leur enlèvement, durant leur captivité, et malheureusement, après leur libération, elles sont à nouveau victimes quand elles retournent à la maison où là, elles sont rejetées par leur propre famille. Pour faire en sorte que les communautés comprennent que le pire qu'elles puissent faire, c'est de bannir leurs enfants. Si elles le font, Boko Haram aura vraiment gagné. Boko Haram aura réussi non seulement à tuer des gens, mais à faire imploser les communautés. Il est important que les communautés puissent réintégrer ces enfants, de comprendre que ces jeunes filles qui ont été, malgré elles, impliquées dans ces attentats, doivent être considérées comme des victimes et ne sont pas les bourreaux.
Laurent Duvillier, du bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Burkina Faso, la coalition contre la vie chère a dénoncé l'impunité de la répression contre les manifestations ayant abouti à la chute du régime du président Blaise Compaoré fin 2014. Pour un éclairage, Nicolas Pino a joint le vice-président de cette coalition, Chrysogone Zoukmoré.
Nous avons enregistré lors de l'insurrection populaire un certain nombre de martyrs qui sont tombés sous les balles des éléments de l'ex-RSP. Et jusqu'à ce jour, nous attendons que la lumière soit faite sur ceux-là qui ont donné l'ordre de tirer sur ces manifestants et sur ceux-là qui ont effectivement tiré sur ces manifestants. Ça fait plus d'une année que ça dure et nous pensons que cela a suffisamment duré. Donc, nous exigeons que la lumière soit faite assez rapidement sur ce dossier de crime qui reste malheureusement jusqu'ici impuni.
Vous parlez de passivité ou d'obstruction à la justice dans cette affaire ?
Non, mais on ne peut pas parler d'obstruction à la justice, puisque bon, nous avons quand même constaté ces derniers temps que la justice a relativement les mains libres pour procéder à un certain nombre d'inculpations. Du reste, vous savez qu'en ce qui concerne le dossier Norbert Zongo, nous avons assisté à des inculpations à la fin de l'année 2015. Donc la justice, normalement, devrait quand même faire avancer les choses à ce niveau-là également en ce qui concerne les martyrs de l'insurrection et ceux de la résistance populaire au putsch de septembre 2015.
Qu'en est-il des réparations financières attribuées aux victimes de cette répression ?
Il n'est pas évident que tout le monde d'abord ait obtenu réparation parce que jusqu'à une période récente, il y a des familles qui étaient encore en reste par rapport à ces réparations-là. Le deuxième élément qu'il faut souligner, c'est que, bon, en termes de réparation, c'est vraiment le strict minimum que le gouvernement de transition a eu à leur apporter. Donc, l'essentiel pour nous, comme je l'ai dit, c'est que la justice puisse se faire. Et s'il y a réparation, que ces réparations-là puissent être suffisamment conséquentes en rapport avec ce que la justice aura décidé.
Qu'attendez-vous de la justice burkinabé concernant le cas de l'ancien président Blaise Compaoré ?
Oui, mais de toute façon, vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre le président Compaoré. Et nous attendons que les choses suivent leur cours. À notre connaissance, le mandat d'arrêt n'a pas été levé. Donc, il appartient à la justice de s'assumer jusqu'au bout et de faire en sorte que, en tout cas, sa décision soit respectée, aussi bien par les autorités ivoiriennes que par les autorités burkinabé. Le président Compaoré, et qui, en principe, devrait pouvoir accepter de venir assumer toutes ses responsabilités. Après avoir géré le Burkina pendant près d'une trentaine d'années, je crois qu'il serait quand même judicieux et courageux de sa part de venir répondre de ce dont on l'accuse à travers donc les éléments ayant concouru à lancer ce mandat d'arrêt international.
Chrysogone Zougmoré, vice-président de la coalition contre la vie chère et président du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Bénin, depuis la formation du premier gouvernement de l'ère du nouveau départ, prônée par le président Patrice Talon, les décisions s'enchaînent et entraînent également des grincements de dents au sein de l'administration publique. Des détails parfois cocasses avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur à Dandé.
Il l'avait annoncé le 6 avril dernier lors de la prestation de serment. Patrice Talon a dit mettre son mandat sous le signe des réformes administratives et institutionnelles. Deux décisions viennent de prendre corps. L'interdiction des postes téléviseurs dans les bureaux et l'obligation pour tous les fonctionnaires de venir à l'heure au bureau. Désormais, tout fonctionnaire doit signer le cahier de présence disponible jusqu'à 8h15. Excédé cette heure, il sera considéré comme absent. La société civile acclame la fin de la pagaille qui sévit dans nos administrations où tout le monde se prend pour Dieu. Gustave Assa de l'ONG Social Watch se prononce.
Vous allez dans une administration, vous voyez quelqu'un s'est levé, il n'est pas là, il n'est même pas venu, mais il a pris soin de déposer sa veste et une chaussure en bas de son fauteuil là-bas. Le collègue qui est dans son service n'est même pas en mesure de dire, ça fait 2 jours qu'il est venu, et il s'est livré à ses affaires et il gagne l'argent public. Ça, c'est tuer l'entreprise du service public. Ils sont là une fois par semaine ou peut-être une fois par mois et tout le temps ils sont en mission, ils vont gagner cet argent-là. Au nom de quoi ?
L'autre réforme sur laquelle les Béninois attendent le gouvernement est liée au concours dit frauduleux dont l'annulation est vivement souhaitée par les populations qui pensent que les enfants des pauvres sont sacrifiés au profit de ceux dont les parents sont nantis. La décision ne tardera pas puisque le ministre de la Justice a annoncé qu'elle sera au cœur du premier conseil des ministres de Cotonou. Ginette Fleur à Dandé pour VO Afrique.
Au Soudan du Sud, la rébellion et le gouvernement marquent un pas de géant dans la mise en application de l'accord de paix d'août 2015. Alfred Ladou Goré, numéro 2 des rebelles, est rentré à Djouba. La formation du nouveau gouvernement est prévue la semaine prochaine, après l'arrivée du chef rebelle Riek Machar. Des détails avec Eric Manirakiza.
La mise en application de cet accord tant attendu avait été maintes fois retardée. L'arrivée annoncée de Riek Machar dans moins d'une semaine à Djouba serait un symbole important pour enterrer définitivement la hache de guerre. Le numéro 2 de la rébellion, Alfred Ladou Goré, est arrivé mardi à Djouba avec une délégation d'environ 60 personnes, un acte réaffirmant que la paix ne sera pas remise en question, a-t-il déclaré. Le gouvernement sud-soudanais s'est réjoui de cette avancée qui marque la fin de la guerre, selon Akol Paul, un haut responsable dépêché pour accueillir la délégation rebelle. Pour cimenter l'accord, il est prévu la formation d'un gouvernement de transition par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, nommé vice-président du Soudan du Sud le 12 février, un poste qu'il occupait déjà aux côtés de M. Kiir avant le déclenchement du conflit en décembre 2013. Toujours dans la mise en application de l'accord, un total de 2370 soldats et policiers rebelles sont déjà rentrés à Djouba pour garantir la sécurité de leur chef. Mais malgré ce rapprochement entre les deux belligérants, les relations restaient fragiles entre les rebelles et l'armée qui s'accusent mutuellement de violer l'accord. Sur ce, Washington a appelé toutes les parties à respecter leurs engagements.
L'Afrique australe est particulièrement touchée par une vague de sécheresse. Le Zimbabwe et le Malawi ont déclaré l'état de catastrophe naturelle, tandis que le Mozambique s'est mis en alerte rouge pour pouvoir débloquer 9,5 millions de dollars pour venir en aide à la population. Une insécurité alimentaire qui touche aussi l'Éthiopie et son gouvernement, aidé du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, doit apporter une aide alimentaire d'urgence à plus de 7 millions de sinistrés. Nani Talani a recueilli les explications de Stéphanie Savario, chargée de communication du PAM à Addis Abeba.
On estime aujourd'hui à plus de 10 millions de personnes sont touchées par cette sécheresse. En tout cas, c'est ce qu'évaluent les agences humanitaires avec le gouvernement. Et le PAM, avec le gouvernement, est chargé de fournir une assistance alimentaire à plus de 7 millions de personnes.
C'est essentiellement la sécheresse qui a conduit à cette situation catastrophique.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand vous avez des situations de sécheresse sur des endroits dont les petits agriculteurs dépendent essentiellement de la pluie qui tombe du ciel, bien entendu, les gens sont assez vulnérables. Donc, effectivement, l'année dernière, la petite saison des pluies n'a pas été bonne. Et la grande saison des pluies qui permet d'engranger le maximum des récoltes pour l'année a été catastrophique également. Donc, il y a des régions qui sont touchées par une production, il manque de 40 à 80% de la production de certaines familles, par exemple. Donc ça, c'est des situations assez terribles. Donc là, maintenant, la situation va devenir très, très critique si on ne peut pas continuer à apporter une assistance alimentaire, parce que pour l'instant, on a pu apporter une assistance alimentaire. Le gouvernement a énormément contribué, ce qui est quelque chose aussi d'assez inédit pour cette ampleur-là, parce que le gouvernement a investi plus de 400 millions de dollars, ce qui est assez conséquent. Donc l'aide a été là, donc elle a, si vous voulez, elle a pu aider à passer un cap, mais là, le cap qui se profile maintenant est encore plus délicat. Il faut surtout que les contributions financières puissent continuer, sinon là, on s'achemine vers une période vraiment, vraiment difficile, parce qu'il n'y aura plus du tout de récolte.
On voit qu'il y a plusieurs initiatives sur le terrain pour parer au plus pressé, c'est une très bonne chose, mais quelles stratégies doivent être mises en œuvre pour éradiquer définitivement cette crise alimentaire?
Le gouvernement et les autres partenaires humanitaires ont mis en place des systèmes en Éthiopie qui sont bien connus, qui font école dans le monde entier. Seulement, le pays est très grand et ce sont des systèmes qui sont souvent à petite échelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par le gouvernement en Éthiopie et c'est surtout ça qu'il faut aussi continuer à développer. Tout ce qui concerne les investissements qui ont été faits dans l'agriculture, tous les investissements qui sont faits dans tous les systèmes. Là, par exemple, si cette crise peut être aussi bien évaluée, c'est parce que le gouvernement a investi dans des systèmes d'alerte, dans des systèmes d'acheminement de la nourriture, etc., qui n'existaient pas il y a 30 ans, dans des structures de santé qui n'existaient pas il y a 30 ans. Et c'est grâce à ces structures de santé qu'on peut aujourd'hui acheminer l'aide.
Stéphanie Savario, chargée de communication du PAM, elle était jointe à Addis Abeba. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Joselle Morissin. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel, sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec la malienne Kaira Arbi et son single Tombouctou. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Oui.